Vous écoutez
RMC. RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
10h06, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche, de 9h à midi. On est très heureux d'être avec vous tout l'été sur RMC. On a beaucoup de choses à vous conter et notamment un dossier volé dans quelques instants. On est toujours avec Marie Martineau, Marion Bartoli, Simon Dutin et une ex-GG vient nous rendre visite. Directrice, madame la directrice de la communication de la Fédération Française de Tennis, Sarah Pitkowski. Salut Sarah.
Bonjour les GG.
Salut Sarah.
Vous allez bien? Salut Marion,
bien comme ça va.
Ouais, écoute, très très bien.
À 10h30, on va parler de paddle avec toi.
Ouais.
Le paddle.
Paddle. Le paddle, bah ouais, c'est.
Après, tu peux aller sur la scène en
fer. C'est la planche avec laquelle tu peux rentrer à la maison, ouais, voilà.
Merci Sarah.
Ah, il est vexé, t'es venu nous voir.
C'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi qui t'es lancé, Simon. Je ne fais que suivre ta trace. Tu vois, j'essayais d'y aller.
C'est sympa, Sarah. Mais parce que hier, tu nous l'as écrit PA2L. E et du coup on s'est dit mais
non 2D
2D LE et on s'est dit que vient faire Sarah Pitkowski pour nous parler de, okay, d'une planche.
Merci Bernard Pivot,
mais tu sais
avis,
quoi, j'en fais aussi
les auditeurs. Padel donc avec le majeur français, ouais, le premier majeur français, les finales c'est aujourd'hui et tu viens nous en parler et également nous raconter ta semaine et ce succès donc du padel, si j'ai bien compris. Il n'y a pas de problème. Dans quelques instants, la punchline des GG signée Yves Bouget, le président de la Ligue nationale de volley, qui a proposé un projet complètement fou: intégrer l'équipe nationale de Chine au championnat de France. Êtes-vous pour ou contre les GG? Et puis à 11h, la seconde autour des championnats du monde d'athlétisme qui se déroule actuellement aux États-Unis. L'athlète qui se cherche en vain des stars, ce sport est-il devenu sans intérêt pour le grand public? Et pour vous les GG, vous devrez répondre à cette question. Un énorme cadeau à vous faire gagner également dans les grandes gueules du sport. Ce week-end, nous vous offrons avec Alpine des places pour le samedi 23 et dimanche 24 juillet pour le Grand Prix de France de Formule 1 sur le circuit Paul Ricard au Castellet. Au programme, Alpine vous offre l'accès aux loges privatives, un accès VIP à la Skybox juste au-dessus de la tribune Alpine. Inscrivez-vous en envoyant VIP par SMS au 732-16. VIP par SMS au 732-16. Il reste seulement deux. Je suis obligé de vous raconter.
Comme t'es
parce
pro,
que
t'es allé au bout quand même.
Je suis allé à bout.
C'est n'importe quoi aujourd'hui.
Je me suis fait manger.
Alors, Morgan est avec nous. Morgan, je te présente.
Salut.
Tout de suite. Bonjour Morgan.
Salut les GG.
Morgan est avec nous pour nous parler de volley, journaliste RMC Sport. Et pendant que je vous comptais ce jeu magnifique sur la Formule 1 et le Grand Prix du Castellet, Morgan a failli chuter dans le studio RMC. Il s'est rapproché in extremis. Ça va, Morgan, tout va bien.
Okay, c'est la chaise.
Me fais plus ça parce que là, moi, ça devient difficile.
Ou alors, va au bout du geste, backflip.
Non. Jouez VIP au 732-16. Jouez les copains. Il reste uniquement deux places. Donc, on vous attend nombreux. Et on appellera le grand gagnant à la fin de cette émission. Et si l'équipe nationale de Chine intégrait le championnat de France de volley? Ça pourrait ressembler à un camoulox, c'est vrai, mais ce projet complètement dingue est en passe de se réaliser. Tout est parti d'une initiative de la Fédération française. Au courant que la Chine souhaite bien préparer les JO de Paris 2024, le volley professionnel a besoin d'argent et de médiatisation. Alors le président Éric Tanguy met en relation la Fédé chinoise et la Ligue française. L'histoire est en marche. Le projet préparé dans le plus grand secret. Et ces derniers jours, les choses se sont accélérées et Yves Bouget, le président de la Ligue, a défendu son idée face aux médias. C'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Je ne vois pas trop en quoi l'équité, qui est une valeur morale, serait en cause dans la participation de la Chine au championnat, en sachant que les joueurs d'équipe nationale chinoise qui seraient habilités à jouer seraient ceux qui figurent sur la liste VNL de cette saison. Donc, je rappelle que la Chine est la 17e nation mondiale. Si dans le cadre d'une convention sportive internationale, ils nous demandent de venir préparer les JO 2024, c'est certainement pas pour enfiler des perles.
Les explications du président de la Ligue, Yves Bouget. La musique qui fout les jetons et cette question. L'équipe nationale de Chine qui intègre le championnat de France de volley, pour ou contre? Simon Dutin.
J'étais a priori contre, puis j'ai trouvé des arguments pour aller dans le sens de la Ligue, parce que j'encourage toutes les initiatives. Bon bref, on en parle dans un instant. Allez, plutôt pour.
Plutôt pour, ok. Marie Martineau.
T'as reçu un chèque dans la nuit, comment on va dire?
Marie Martineau.
Alors moi, ce sera un grand contre.
Ok, Marion Bartoli.
Pareil, un énorme non.
Sarah Pitkowski.
Alors je vais écouter Simon parce que alors là je vois pas comment tu peux être pour. Là on marche là.
Trois contre, un pour avant de débattre. Notre journaliste Morgan, tout va bien pour lui. Je rassure sa famille. Est avec nous. Morgan.
Non, mais pas du tout.
Où en est-on de ce projet? ce projet totalement fou.
Ah là, c'est plus qu'un projet. Le dossier est bouclé. Ne reste que plus qu'à signer le bon pour accord, on va dire. Accord du ministère des Sports. Et on vous révèle ce matin sur RMC qu'une rencontre décisive aura lieu avec la ministre Amélie Oudéa-Castéra vendredi prochain, vendredi 22 juillet. Les présidents de la Ligue et de la Fédération française doivent en effet obtenir l'agrément juridique du ministère des Sports et ils y travaillent. Accord des clubs du championnat, bien sûr. Le président de la Ligue, Yves Bouget, avait sondé les 14 président de l'élite il y a deux semaines lors d'une visioconférence qu'on va dire assez animée, mais les présidents des clubs n'ont pas mis leur veto à ce projet. Enfin, des villes, des clubs et des sociétés privées ont encore 4 jours jusqu'au 21 pour déposer leur candidature pour accueillir cette équipe de Chine. Il faut se conformer à un cahier des charges minutieux de la Ligue. Il prévoit l'hébergement, l'entraînement, les repas et les matchs des 22 joueurs et 8 membres du staff. Alors selon les informations de rmcsport.fr, une demi-douzaine de candidatures se préparent, 2 en Ile-de-France, dont à Levallois-Perret, 1 en Occitanie, la capitale, Toulouse, dans les Alpes-Maritimes autour de Cannes et dans la région Centre-Val-de-Loire à Orléans. Donc vous le voyez, tout est prêt, si bien qu'aujourd'hui on peut dire qu'on est arrivé au point que le plus étonnant serait que l'équipe nationale de Chine ne participe pas au championnat de France.
Merci Morgan Bessa pour toutes ces précisions et d'avoir ouvert le dossier dans les grandes gueules du sport avec ces précisions, ces informations. Vous pouvez aller retrouver un dossier sur rmcsport.fr, tu restes évidemment avec nous pour ce débat. Simon, tu es le seul pour, est-ce que tu veux, et tu vas commencer parce que tu vas tenter de convaincre Sarah Pitkowski, Marion Bartoli et Marie Martineau.
Je vais peut-être convaincre personne, mais effectivement, a priori, j'étais contre. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils viennent foutre en championnat de France? Quel est bon? Ça fait quand même 10-20 ans maintenant que on sait que les Chinois, ils sont pas plus bêtes que les autres. Ils ont compris que le rayonnement international passe par, effectivement, le sport et la compétitivité de ces équipes nationales. Ils ont commencé avec leur championnat de foot. Ils ont recruté certains des meilleurs joueurs qui évoluent en Europe, mais ils ont des idées très précises sur ce qu'ils veulent faire et la façon de développer leur secteur du haut niveau. On rappelle d'ailleurs que, par exemple, tu vois, ils recrutaient les meilleurs attaquants qui jouent en Europe, mais par contre, en revanche, ils interdisaient de recruter des étrangers au poste de gardien de but. Ils étaient tellement mauvais au poste de gardien de but qu'ils se disaient, il faut quand même que les Chinois apprennent à jouer à ce poste-là. Bon, on accueille bien les Sud-Africains, les franchises sud-africaines en Coupe d'Europe l'année prochaine et tout le monde trouve ça formidable. On va aller se confronter aux Sud-Africains. C'est la première fois depuis que je fais les GG qu'il y a un débat de cette taille-là sur le volley-ball, qui est un sport ultra spectaculaire, injustement sous-médiatisé, qui n'avait plus de diffuseurs. Je trouve ça absolument scandaleux que ça n'intéresse personne. Je vois pas pourquoi on s'intéresse plus au hand ou au basket qu'au volleyball, qui est, je le répète, ultra spectaculaire. Manque de visibilité. Tous nos meilleurs joueurs jouent en Italie, en Russie, dans les pays de l'Est, parce que effectivement, il y a des vrais championnats pro, que on y gagne bien sa vie et que effectivement, on y joue avec les meilleurs joueurs du monde, les Brésiliens, les Cubains, ils jouent tous également. Là-bas, alors effectivement, bon, les mots du président de la Ligue sont pas très bien choisis, je trouve. Pourquoi s'embarrasser effectivement avec l'équité, c'est vrai, dans le sport.
Mais l'équité, une valeur morale.
Oui, valeur morale, ma chère Sarah, c'est vrai. Bon, c'est pas dingue. Hein, l'argumentaire non. Est pas dingue, je non. Le confesse. Mais bon, on rappelle que en France, il y a quand même beaucoup de jeunes qui jouent dans ce championnat de France. Ils vont pouvoir, le président de la Ligue le rappeler, c'est un de ses arguments, se confronter à la 17e nation mondiale. C'est quand même pas ils sont meilleurs en volley qu'ils ne le sont en football.
Mais Simon, tu parles de diffusion, mais en quoi, le fait que la Chine intègre le championnat
La Chine va payer des droits à la Ligue de volley.
Oui, mais les Français ne verront pas plus de volley à la télé. C'est du fantasme.
À côté de ça, la Ligue vient de. La Ligue vient de passer un contrat et vient de vendre à une chaîne de sport payante un match par journée. Écoute, c'est déjà mieux que rien.
Justement, les précisions là-dessus, Morgan.
On parle de 1 300 000 euros du le chèque fait par la Chine.
Il a été contesté, le chiffre, je crois. Ils veulent pas qu'on sache.
Oui, mais aux alentours de 1 300 000 euros par saison, vu que c'est sur une saison, plus une saison reconductible, et c'est un sport qui manque d'argent. C'est pour ça que souvent, les présidents et les managers ont été favorables à l'arrivée de la Chine. et les joueurs plutôt opposés à cette arrivée.
Ok, d'ailleurs si vous êtes joueur de volley, n'hésitez pas à nous appeler le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Les arguments de Simon, les précisions de Morgan, est-ce que ça arrive à vous convaincre?
Oui, mais Marie, je te vois débiter là. Non, mais vivement que la Corée du Nord puisse payer aussi. Et, non, mais, en fait, la première chose que je me suis dit... On m'aide. La première chose que je me suis dit, c'est on fait quoi si là, donc, allez, le Valois-Perret signe, enfin remporte l'appel d'offres. L'appel d'offres que j'ai sous les yeux, incroyable. Ils remportent l'appel d'offres, ils font la compète cette année. Ils gagnent le tournoi et donc la Chine devient championne de France.
Non, c'est quoi la Chine ne sera pas championne de France.
La Chine ne sera pas championne de France. Elle ne pourra pas être reléguée non plus.
Donc le deuxième deviendra champion de France.
Le finaliste, c'est ça. Ah oui.
Ça n'a aucun sens.
L'équité n'a pas de valeur morale selon le président. Donc en fait, tu mets qui tu veux champion de France.
Complètement.
C'est ça.
En fait, ça pose une vraie question sociologique et philosophique du sport aujourd'hui. Alors, je suis contre parce que ça me paraît invraisemblable, mais si on se pose la question aujourd'hui, s'il y a bien une chose qui, dans le monde, fait bouger les frontières, c'est le sport. On est capable d'accueillir des clubs turcs pour jouer en Coupe d'Europe en foot, alors que ça ne fait pas partie, à l'heure actuelle, de l'Europe. Donc, en fait, le sport déconstruit complètement les idées qu'on peut avoir sur les frontières, les nations. Et donc, c'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. C'est-à-dire que si ça s'est fait, super coup de com', ça permet de remplir les caisses, ça évite au ministère de donner de l'argent encore au volet, très bien. Et on est en train d'aider, on est juste en train d'aider une nation à être meilleure dans un sport
pour Paris 2024.
Bon. Mais la valeur d'équité n'est pas morale, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais la position, c'est ça, c'est de se dire qu'en fait, le sport, la chose qui nous fait vivre des choses en direct, parce qu'il n'y a plus que ça qu'on vit en direct, à part des élections présidentielles, hein, sinon, quand on regarde un film, c'est des choses qui sont tournées, enregistrées. Ce que je veux dire, c'est que la position du sport, elle fait tout bouger, en fait. C'est comme des plaques tectoniques. Tout bouge et jusqu'où on va aller.
Ouais, là,
jusqu'où
dérive,
on va accepter, finalement, de se dire que tout est faisable dans le sport. Voilà. Et c'est la question que je me pose. Et là, on pousse quand même très, très loin le curseur pour... je sais pas pourquoi, pour faire grandir une nation dans un sport, mais ils savent très bien faire les Chinois pour attirer nos meilleurs coachs, nos meilleurs joueurs. Ils l'ont fait dans plein de sports et notamment l'escrime.
Dans le tennis.
Dans le tennis aussi, voilà. Donc ils viennent piocher, ils viennent attirer avec des super salaires. Mais pourquoi leur ouvrir les portes chez nous, en fait?
Okay, mais c'est Marion pire que Bartoli. Tu sais qu'on va leur octroyer un coach français pour être assistant coach du coach chinois.
Bah bien sûr, faut bien qu'ils apprennent à parler français, toi.
Non, on va prendre un coach pour aller le chercher pour pouvoir repartir.
France, s'ils jouent en France, on va leur donner un coach français qui va être l'assistant coach du coach chinois. Ils vont certainement communiquer en anglais, comme le font certains entraîneurs français en tennis, par exemple, qui ont été recrutés par la fédération chinoise, pour former l'entraîneur chinois et pour former les joueurs chinois. Donc là, si c'est pas se tirer une balle dans le pied.
Je sais pas où on va.
Ouvrons
les portes de l'INSEP.
Tu sais qu'il y a des crêpes.
C'est ça.
Qui ont des sollicitations pour accueillir des délégations étrangères, pour entraîner des délégations étrangères dans des crêpes français financées par l'argent public français. Enfin, à un moment donné, si on met pas des stops, alors oui, bien sûr, je suis complètement d'accord avec toi, Sarah. Bien évidemment que le sport est universel, il est totalement vecteur de choses bien, bien plus positives que parfois ce qui est en train de se passer actuellement sur la planète, ça c'est évident. Mais à un moment donné, tu peux pas dire oui à tout, surtout pour des sommes qui, quand même, on parle de 1,5 million d'euros donnés par les Chinois à la Fédération française de volley, qui sont répartis par 50 000 euros par club par saison. C'est des budgets par rapport à ce qu'investit le ministère des Sports globalement dans le sport en France, qui reste quand même des budgets qui sont très peu importants et que le ministère des Sports pourrait parfaitement assumer lui-même. Donc je ne comprends pas la démarche, en fait. Je n'arrive pas à la comprendre du début jusqu'à la fin. Alors si c'est simplement pour mettre un coup de projecteur médiatique, là où je suis totalement Marie, c'est qu'en fait ce coup de projecteur médiatique, il va être fait en Chine, pour développer le volley en Chine. Mais il n'y a pas forcément plus de matchs qui vont être diffusés sur la télé française aujourd'hui, du volleyball. Donc la démarche, je ne la comprends pas du début jusqu'à la fin.
Je suis curieuse de savoir ce qu'en pensent les athlètes eux-mêmes. Vraiment, je serais vraiment curieuse de savoir ce qu'ils en pensent. Je ne sais pas, Morgane,
là-dessus. Morgane, je crois que les athlètes étaient plutôt contre, et oui, c'était les clubs qui étaient, alors pas tous pour, mais on va dire avec une petite majorité pour.
Tu parlais de la réunion d'Yves Bouget avec les présidents de club. Les présidents de club, ils ont réussi à se faire convaincre, j'imagine, par les arguments financiers.
Uniquement.
Mais quand on leur a dit, ils sont quand même tombés de l'armoire.
Oui, ils m'ont dit, on est tombés sur le cul. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à un projet aussi bouclé que ça. On parle de budget de club de volley, c'est entre 1 million et 2 200 000 euros.
Pour les plus gros clubs.
Pour une saison.
Ouais.
Donc le joueur le mieux payé du championnat de France est à 130 000 euros par an.
Par an. Et, non mais effectivement au début tu penses à un canular.
Ce n'est que financier.
Effectivement,
ce n'est que
au début,
financier.
Tu penses à un canular, mais il faut voir.
On est champion
olympique, mais il faut voir la gueule, pardonnez-moi, des salles de volley en France. Je veux dire,
les copains. Ah, on nous appelle, c'est téléphone rouge.
Que ça peut bien être.
La ligne directe à GG. Comme hier pour nous parler de 7. Peut-être. On ne sait pas, on va décrocher. Allô, bonjour, c'est qui ?
Salut les GG, c'est Yannick Bazin, le consultant volet chez vous, les gars, chez RMC. Salut à tous.
Yannick, bonjour. Merci de nous appeler, évidemment, un débat volet. Tu veux réagir ? Je rappelle en plus que tu es aussi président du syndicat des joueurs et des joueuses. Alors dis-nous, donne-nous ta position.
En effet.
Pour ou contre ?
C'est plutôt contre. Hein. Je suis désolé pour ceux qui ont dit pour, mais c'est carrément contre. C'est-à-dire que si pour nous, enfin nous joueurs, même les joueuses, hein, puisqu'on a pas mal débattu sur la question, mais les joueuses, on n'a aucun intérêt de jouer les Chinois. C'est assez clair. La seule question, elle est financière, malheureusement. Et nous, on n'a aucun intérêt de les jouer. Est-ce qu'on peut imaginer la Chine champion de France ? Alors non, je sais que le président ne veut pas que la Chine soit champion. Mais imaginons une finale entre la Chine et Tours et que le malheureux perdant soit quand même champion de France. Ça serait quand même invraisemblable.
Bonjour Yannick. On peut pas imaginer que ce serait un peu emmerdant de les voir en finale et de sacrer une équipe qui a perdu. Ils peuvent pas jouer la phase régulière et puis dire en revanche les playoffs vous êtes sympas vu que vous êtes pas éligible au titre de champion de France. Vous jouez la phase régulière, vous tapez contre tous les clubs.
Les Chinois vont regarder tout ça.
C'est un peu moins cher. Désolé, mais bon, effectivement.
Regarder une finale où en fait tes joueurs ils montent pas sur le podium.
Ouais, exactement. Si c'est remporté un match, tu peux pas.
C'est pas évident pour le coup, mais je vois mal les Chinois s'engager et donner de l'argent pour ne pas jouer les playoffs. Je pense que leur intérêt, c'est vraiment de jouer ces playoffs et d'affronter les meilleures équipes du championnat.
Yannick, j'ai une question pour toi.
Marion Bartoli.
Je t'écoute, Marion.
J'ai lu que donc Yves Bouget avait passé 30 ans de sa vie en Chine à raison d'environ 2 mois par an. Est-ce que tu penses que dans sa réflexion, c'est quelque chose qui a joué en disant « je les connais vraiment bien, etc. Je peux arriver à naviguer dans quelque chose qui restera quand même en faveur de la France ? Est-ce qu'il a pris ça en compte ? Est-ce que le rapprochement s'est fait aussi grâce à lui ou par lui ? Est-ce que tu as plus d'infos là-dessus ou pas ?
Ça c'est une bonne question. Est-ce qu'il a pris un petit billet ? Ça c'est une bonne question. Mais en tout cas, le rapprochement, non, il a été fait par le président de la Fédé, donc Eric Tanguy. Je sais que c'est lui qui a mis en relation avec le président de la Ligue. Mais c'est une bonne question. Après, je pense que pour Monsieur Bouget, je pense que la seule réflexion, elle est économique. C'est-à-dire que le volet français en ce moment, le niveau économique est très faible, en tout cas pour les clubs. Donc et surtout pour la Ligue qui est en déficit, donc pour l'instant il est uniquement là-dessus, il se base uniquement là-dessus. Mais le seul problème c'est que, enfin nous joueurs, on se dit oui pourquoi pas, mais dans ce cas-là il faut que ça soit beaucoup d'argent et il faut surtout que ça aide les clubs, que ça soit les gros, exactement, les petits clubs à se structurer. Mais pour l'instant c'est ce qui est proposé en tout cas par la Chine, le 1,3 million que tout le monde a entendu. C'est très peu.
C'est ridicule.
Alors Yannick, justement, de toi qui es président du syndicat des joueurs, des joueuses de volley professionnel, votre position, on la comprend, c'est plutôt contre, mais si ce projet aboutit, donc il est en passe d'aboutir, mais vous n'êtes pas d'accord sur les conditions, c'est quoi votre levier ? Est-ce que vous allez réclamer et demander des comptes au président de la Ligue ? Est-ce que vous voulez faire grève ? C'est quoi l'organisation autour là ?
Nous les joueurs, que ce soit les joueurs ou les joueuses, on a toujours très peu de pouvoir de pression sur la Ligue. Je pense que nous on peut pas faire grand chose. Maintenant je suis assez étonné.
Je comprends pas quand vous dites que le syndicat que vous avez peu de poids. Mais s'il y a personne qui rentre sur les parquets.
Je suis complètement d'accord avec toi.
Le pouvoir il appartient à ceux qui sont sur le terrain. Donc c'est là où je Voilà, c'est mon petit bémol.
Ok, Yannick.
Mais je suis, enfin moi je suis d'accord. Hein, moi j'aimerais qu'on ait plus de poids, mais pour être au syndicat depuis déjà 3-4 ans, enfin je peux te dire que c'est très compliqué. Même si nous joueurs, on décide de ne pas jouer. On l'a déjà fait cet hiver avec un Boxing Day qui était, enfin que personne voulait jouer. On a tenté de faire grève, ça a été très compliqué. On a été menacés, que ça soit par les clubs, par la ligue. Enfin, on a été tous un peu mis à défaut sur ce truc-là. Donc, nous, on est là, on essaie de pousser au maximum. Mais pour l'instant, les présidents de clubs, je ne comprends pas. C'est à eux aussi de dire, mais nous, on veut pas jouer. Et si les Chinois intègrent le championnat, eh bien, on mettra l'équipe, on mettra les jeunes, on les fera pas jouer, on fera pas jouer nos pros parce que c'est indécent. Ouais.
Il a dit que je me permets de faire encore une fois l'avocat du diable parce que moi je suis catastrophé par l'image, je le disais avant que tu nous appelles, vraiment je trouve ça injustement sous-médiatisé par rapport à des sports comme le basket et le handball, par rapport au côté spectaculaire, au côté convivial. C'est un sport auquel beaucoup de gens jouent dans les jardins, sur la plage, sans aller jusqu'à parler du beach volley qui pareil est injustement sur-médiatisé par rapport au volley classique. Mais on fait comment l'état du volley français, il est catastrophique. Moi, c'est de guerre lasse. Je me dis, mais où sont les solutions? Je pense qu'une grève des joueurs, elle serait encore plus catastrophique pour l'image que ça renverrait, et notamment auprès des diffuseurs. Est-ce que vous, au syndicat des joueurs, vous avez des solutions pour aller chercher les diffuseurs? Parce qu'encore une fois, donc là, ce que va donner la fédération chinoise, c'est, moi, de ce que j'ai compris, sans compter ce que va payer la télévision chinoise, qui va aussi rentrer dans les caisses de la Ligue, donc des clubs. Si ça permet de refaire des salles, de faire des clips de promo, des highlights, de vendre un petit peu l'image du volley
la compétence de la Ligue. Alors, ou de la Fédération, c'est les communes.
Sauf que quand tu remplis ta salle et que tu vas voir la mairie en disant « Non mais vous avez vu, nous on fait 2000 à chaque match, donnez-nous un peu de taille. »
Si tu interpelles Yannick
Bazin, quelles sont les solutions que les joueurs
proposent, c'est ça? Moi, si j'ai bien compris, Yannick, la clé et le nœud du problème, c'est l'argent. Plus d'argent, vous êtes OK, pourquoi pas? Là, il n'y en a pas assez.
Et clairement, il n'y en a pas assez. Si on fait un petit calcul, on sait que la Ligue est en déficit de 300 000 euros. On peut s'imaginer qu'ils vont bien se mettre 500 000 euros dans les poches. Qu'est-ce qui va rester au club? Enfin, ça va être 50 000 euros. 50 000 euros, c'est quoi? Sachant qu'ils rajoutent en plus de ça. Donc deux équipes dans le championnat, donc deux déplacements en plus, les 50 000 euros, tu les oublies en fait. Donc ça ne sert absolument à rien.
Ok, on a bien compris la position du syndicat. Merci beaucoup Yannick d'avoir été avec nous.
Et bon courage.
Et on en reparlera dans les GG. C'est vrai qu'on ne parle pas souvent de volley, hormis avec l'équipe de France et notamment lors des Jeux Olympiques. On a eu la chance de t'avoir comme consultant. On va prendre ce dossier en tout cas en main. Toutes les informations sur rmcsport.fr grâce à Morgan Bessa. Morgan, juste une dernière question. Il y a Tigre71 qui nous dit via le direct studio. Donc est-ce que ça veut dire qu'il y a un club qui saute? Est-ce que ça, c'est la question est résolue ou pas du tout? L'équipe masculine de Chine prend la place d'un autre club?
Il y a deux incertitudes. Une incertitude financière concernant Narbonne qui est passée devant la DNACG. On attend la réponse. Et la deuxième incertitude, c'est 14 clubs. Plus la Chine, ça fait 15. Le président souhaiterait 16 clubs. Donc, on ferait remonter le club relégué qui est l'ASCAN.
Ok.
Mais c'est pas défini encore.
C'est pas défini encore. Je le disais.
Quand est-ce qu'il commence le championnat?
Normalement, il doit commencer début octobre.
Ah oui, donc il y a encore un peu de temps.
Il y a le championnat du monde fin août, début septembre.
Les GG s'occupent de ce dossier, on en parle, rmcsport.fr. Merci beaucoup Morgan d'avoir été avec nous. 10h30, on se retrouve dans quelques instants. Sarah Pitkowski va nous parler de padel dans quelques instants avec le premier majeur français qui se déroule actuellement. Ça se passe à Paris. Arrêtez de rire. Je suis pro, je change, padel, pas padel, j'ai bien compris. A tout de suite sur RMC, on vous en parle et n'hésitez pas, le 32-16 pour participer à l'émission.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h34, on est de retour dans les grandes gueules du sport. On est ensemble jusqu'à midi, on est là tout l'été et on est très heureux évidemment d'être avec vous. Toujours avec Simon Dutin, Marie Martineau, Marion Bartoli. Et Sarah Pitkowski, qui nous fait l'honneur de sa présence, madame la directrice de la Fédération française de tennis, qui va nous parler. On s'embête avec des mots.
Non, mais t'as raison, c'est le mot mytho, t'as raison.
La place n'est pas vacante?
Elle l'est plus, depuis 48 heures.
Ah,
Ah, t'as des infos?
Bah non, ça a été annoncé.
Ah, bah ça a été annoncé, oui. C'est Caroline qui a pris la place.
Vas-y, balance-nous.
C'est Caroline.
Pour moi,
c'est
Caroline qui a pris la place. C'est de la Fédération française de tennis. Voilà.
Eh ben, écoute, c'est très bien, okay. J'y sais.
Et de la communication aussi. Et tu vas nous parler de padel dans quelques instants. Mais sachez que dans une dizaine de minutes, le zapping des GG, on s'en fout pas avec cette information qui vient tout juste de nous parvenir. C'est Primoz Roglic qui abandonne sur le Tour de France. C'est un énorme coup dur pour la Jumbo. On en parle dans 10 minutes.
Merci, le joueur s'en prête.
La première édition du Paris, premier paddle majeur. C'est le premier majeur français.
Il manque un mot devant JC.
Greenswick?
Greenwiz.
Mais vous avez des sponsors aussi,
premier
les copains.
Premier paddle major.
Ok.
3 GPM.
Il y a pas Qatar aussi, quelque part, non?
J'ai la sensation que je vais avoir un gros problème sur ce débat, non?
C'est pas facile, je te confirme.
Ça se passe du 11 juillet jusqu'à aujourd'hui, le 17 juillet, avec les finales. Déjà, la première question qu'on a envie de te poser, c'est est-ce que cette ambiance, cet engouement à traverser Paris, même en plein mois de juillet, est-ce que c'est une franche réussite?
Écoute, franche réussite, je ne sais pas, mais c'est une réussite parce que depuis 3 jours, le public est vraiment présent dans les tribunes et surtout, on sent cet esprit qu'on voulait donner à cet événement qui est, mais à l'opposé de la tradition qu'est Roland-Garros. Là, on est dans la convivialité, on est vraiment dans venir voir le stade, profiter de venir voir le stade, un sport que vous connaissez peu ou vous en avez peut-être entendu parler, dans une ambiance qui est extrêmement décontractée. Et donc, c'est un peu l'after-work sport que vous pourriez faire à Paris. Et c'était ça, le positionnement de l'événement. Et là, franchement, c'est une réussite.
Et on vient découvrir le jeu, pas forcément les joueurs, parce qu'on n'est pas sur un Roland-Garros,
non,
on vient admirer un Nadal,
très franc,
un Djoko.
Ils sont absolument inconnus pour nous, Français. Les numéros 1 mondiaux, que sont Galant et LeBron, ne sont
c'est
absolument pas...
C'est beaucoup d'Espagnols, non c'est, ça
c'est que des Espagnols. C'est un sport, et je me suis renseignée parce que je me suis dit, mais en fait, ce sport, il date des années 90. Il est né en 69 au Mexique. Il a traversé, il est allé en Argentine, et il est arrivé en Europe par l'Espagne. En tout cas, il a pénétré l'Europe par l'Espagne. Mais nous, en France, ça a une petite dizaine d'années, pas plus en fait. Mais il a un vrai ancrage. Et donc en fait, dans les tribunes, vous avez plein d'Espagnols qui sont là, qui ont profité de venir à Paris et d'encourager, parce que bon, t'as 99,8% de joueurs qui sont Espagnols.
Ah oui, d'accord.
Ah oui, tu n'as
parce que j'avais une question par rapport à ça. Je me demandais si justement on avait enfin des champions français de niveau international
non.
à la LFFT.
Non,
mais donc non.
Mais il y a des équipes de France quand même. J'ai vu sur le site de la fédération, il y a des équipes de France qui vont faire les championnats du monde, etc.
Oui, mais alors face aux meilleurs mondiaux aussi, c'est 2 jeux. Hein.
Il y a, il y a quand même
3 jeux. On va être très franc. Les meilleurs mondiaux n'ont pas joué au tennis avant. Les meilleurs mondiaux ont commencé à jouer au padel. Donc en fait, ils ont les réflexes padel. Alors que nous, nos joueurs, pour la grande majorité, en fait, ils ont commencé au tennis et puis ils sont en train de jouer au padel. Donc il faut déconstruire.
Alors, j'ai une histoire là-dessus, Sarah.
Ouais.
Tu dois la connaître, Marta Marrero, tu te rappelles?
Oui.
Joueuse espagnole qui a joué dans la même période que nous. Tu sais qu'elle fait partie, de ce que j'ai vu, il me semble, du top 5, top 10 des joueuses de padel aujourd'hui.
Très bien. Et
espagnole.
Le paddle féminin est en train de grandir, mais il y a aussi un grand décalage entre les hommes et les femmes.
On en parlait hier sur RMC avec Olivier Giraud. On recevait Arnaud Di Pasquale, il est chargé de mission paddle du coup à la Fédé.
Directeur du tournoi aussi. Ouais.
Et effectivement, on revenait sur cette belle réussite. Ce que je trouve formidable avec le paddle, c'est que c'est à la fois, tu le rappelais, 10 ans en France, il y a une progression météorique. C'est quand même un phénomène de société. Parce qu'effectivement, il y a énormément de gens qui s'y mettent, qui viennent parce que c'est ultra ludique, ça fait appel à la main, au poignet, on chip, on lobe, on smash. Ça a tous les avantages du tennis sans les inconvénients. Il y a le côté ludique qui rappelle un petit peu le squash, parce que pour ceux qui connaissent pas, on joue avec les parois, les murs. Donc, on peut à la fois cogner très fort et à la fois jouer comme un petit roublard. On sort du court, c'est ultra spectaculaire. Et il y a donc ce côté phénomène de société. On joue à 2 contre 2. Donc c'est ultra convivial, on joue avec les copains. Et à la fois, lorsqu'on s'intéresse, on se dit, bon, c'est qui les meilleurs, là, qu'on sort du cours. Et il y a un circuit, le World Paddle Tour, qui est ultra moderne sur les réseaux sociaux, qui publie les plus beaux points chaque jour des tournois. Il y a un côté ultra spectaculaire. C'est un sport qui, à mon avis, ne va pas s'arrêter de grandir. À la Fédé, c'est quoi l'objectif? C'est de
démocratiser le padel, ou alors c'est de développer le très haut niveau?
Alors, pour la première chose, déjà pour la fédération, c'est déjà de construire des padels. Parce que pour jouer, il faut avoir des pistes. On ne parle pas de terrain, on parle de pistes. Donc, il y a une grande volonté d'aider donc les structures que sont les clubs de tennis et pas les structures habilitées, parce que vous avez des structures privées, comme quand on va jouer au foot à 5, on peut aller dans une structure de padel.
Concrètement, juste, ça coûte cher?
Non, ça coûte
de
pas
de construire une piste.
Mais ça va très vite, surtout.
Alors, ça
parce
coûtait pas cher il y a deux mois et demi.
Ouais,
et là,
a pris 30%.
Et là ça a pris 30%
par exemple. Je me rends pas compte, juste une piste, même si tu n'en crées pas qu'une, mais juste une piste, c'est quoi? C'est 25 000, 50 000 euros?
Maintenant, c'est à 30, ouais.
Ok.
Ouais,
le problème, c'est les loyers.
Les loyers.
Il n'y a aucune piste dans Paris Intramuros,
non,
par
il n'y en a pas, non. Mais ce sont en tout cas, le rôle de la fédération, c'est de régir ces clubs de tennis, ceux qui sont affiliés à la Fédération française de tennis. Dans un club de tennis, aujourd'hui, la fédération aide à la construction des padels parce que c'est un moyen de garder ton adhérent et ton licencié qui, à un moment ou un autre, en a peut-être un peu marre de jouer au tennis ou vient chercher dans le padel quelque chose qu'il ne retrouve plus dans le tennis. Donc, ça permet de fidéliser et d'accueillir une population un peu plus jeune parce que, tu le disais, c'est un sport qui est extrêmement ludique, ultra convivial, super explosif, hein, c'est-à-dire que le cardiaque qui monte. Alors qu'au tennis, t'as des laps de temps plus longs, au paddle, c'est quand même beaucoup plus ramassé. Et donc, ça permet d'aller chercher un autre type de population. Ce que la fédé de foot, quand elle a vu le foot à 5, elle l'a regardé en disant, vous rigolez, le foot à 5, jamais. Ouais, nous, final, on restera 11 sur le terrain. Et là, ouais. Là, c'est indispensable pour la fédération. Donc, il y a les constructions des pistes de paddle, il y a une structuration pour avoir des enseignants, parce que si tu veux faire des écoles de paddle, il faut bien qu'il y en ait qui t'enseignent le paddle, dès les plus petits niveaux et chez les plus petits. Et effectivement, il y a une équipe de France de paddle où on est allé chercher des coachs espagnols pour amener nos joueurs.
On fait comme les Chinois ou les...
Oui, mais on va un peu moins loin. Je suis pas sûr qu'on paye aussi cher.
J'embraye juste sur la question de Simon, parce que démocratiser, c'est une chose. Atteindre le haut niveau, l'excellence, et développer et faire connaître des stars, c'en est une autre. Est-ce que tu sens vraiment que le paddle a ce réservoir, pas forcément en France, mais pour devenir un sport durable, qui sera peut-être un jour aux Jeux Olympiques? Est-ce que c'est sa progression ou c'est juste une météorite ou une comète qui va décliner?
Il y a tous les ingrédients. Il y a tous les ingrédients pour qu'effectivement ça concurrence le tennis sur les très grandes compétitions que sont peut-être les Jeux Olympiques. Absolument. Je pense que c'est plus accessible.
Ok, mais est-ce que c'est plus un sport de Jeux Olympiques, tu vois? Parce que le tennis, c'est pas un sport de Jeux Olympiques.
Ça pourrait être un sport de Jeux Olympiques parce que l'histoire de ce sport, elle est récente. Donc, pour grandir, si tu te mets dans le sillage des Jeux Olympiques, ça t'aidera beaucoup plus. Le tennis n'a pas besoin, pour exister, des Jeux Olympiques.
Mais pour devenir olympique, il va falloir qu'il s'internationalise un peu. Parce que si tu dis qu'il y a 90% d'Espagnols, ça marchera pas le
cuyote.
Ça marchera pas.
Il y a quand même des sports aux Jeux Olympiques qui sont pas super universels, si je peux me permettre.
Oui.
Le ski en Amérique du Sud et en Asie, c'est calme aussi niveau.
Ah oui, la championne olympique de la championne olympique de ski freestyle est chinoise. Le champion olympique de snowboard freestyle est chinois. Enfin, les gars, là.
Lingou, elle est plutôt américaine quand même. Elle a le passeport chinois, mais
chinoise.
Ok, très bien. Marion Bartoli. Une dernière question.
Juste une question, Sarah. Tu as les chiffres des entrées de spectateurs sur cette semaine là sur Roland Garros ou d'abord c'est accès libre ou c'est entrée payante?
Non, c'est une entrée payante à des prix qui sont ultra méga attractifs puisque tu peux avoir des entrées qui commencent à 10 euros et ça va jusqu'à 50 euros. Donc non,
mais à 50 euros t'as accès au long lane et tout quoi, c'est la folie. Non,
ça se joue sur le Châtrier, hein, ça se joue, j'ai vu des images.
Exactement, franchement, la piste, elle est au milieu du central et il y a une ambiance qui n'y a pas du tout parce que c'est très feutré quand même, mine de rien, ce cours Philippe Châtrier. Et là, en fait, les gens s'expriment beaucoup plus. Tu rentres avec ton hot dog, tu rentres avec ton hamburger, enfin voilà.
C'est une autre ambiance.
C'est un autre délire.
On est content que ce ne soit pas la même chose que le tennis.
Il y a une dizaine de milliers de spectateurs qui auront pu voir du paddle et visiter, le stade. Ça permet à ceux qui ne connaissent pas le stade et qui n'ont pas accès. C'est une expérience plus global que ça.
Moi, je me demandais si les chiffres de la vente de goodies avoisinent celles du Roland-Garros ou si on en est
ça
loin.
Ça marche très bien, non, t'inquiète pas, ça marche très bien.
Ça reste Roland-Garros, donc la bouteille de 33 centilitres d'eau minérale est à 8 euros.
Non, mais vous exagérez.
Simon, on va pas se fâcher avec ça. Juste rapidement, je rappelle que c'est le premier grand chelem de paddle en France. Ça se passe donc à Paris. Ouais. La finale, c'est cet après-midi. Ouais. Pour tous les auditeurs qui nous écoutent, qui ont envie de voir ça, est-ce qu'il reste des places?
Mais évidemment, s'il reste des places, vous pouvez.
Mais c'est diffusé à la télé aussi.
C'est diffusé sur Canal Plus, absolument. Voilà. Mais vous pouvez venir. Et vous pouvez faire la fête après, il y a DJ, on peut boire des coups, enfin voilà, il y a une super ambiance.
Et ben voilà.
Et à 13h, il y a un match d'exhibition, s'il vous plaît, avec Sylvain Wiltord, avec Cyril Hanouna, avec Arnaud Clément, et puis avec le numéro 1 français.
Ok, c'est à partir de 13h, donc merci beaucoup sur le Philippe Châtrier.
Absolument, cours Philippe Châtrier.
À Roland-Garros, Porte d'Auteuil, à Paris. Tu restes avec nous, Sarah, évidemment, pour cette émission. Tu es une grande gueule un jour, grande gueule toujours. On revient dans quelques instants, les zappings des GG, l'abandon de Primoz Roglic. On s'en fout pas, à tout de suite.
RMC, les grandes gueules du sport, 9h midi,
Jean-Christophe Drouet.
10h48, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Marion Bartoli, Marie Martineau, Simon Dutin et notre invitée ancienne GG, Sarah Pitkowski, qui reste avec nous jusqu'à la fin de cette émission. On est ensemble le samedi, le dimanche de 9h à midi et ce durant tout l'été. Merci de votre fidélité. À partir de 11h, on ouvre le dossier athlétisme, les championnats du monde en ce moment. Intérêt, sans intérêt pour vous, vous nous répondrez les GG. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
Le zapping des GG. Le retour.
Des informations à vous donner. J'espère que j'aurai un peu plus de succès qu'à 9h45. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. La première information à vous donner, c'est Primoz Roglic qui abandonne sur le Tour de France. On s'en fout, on s'en fout pas. Simon Dutin.
On s'en fout pas.
Marie Martineau.
On s'en fout pas.
Marion Bartoli. Marion Bartoli. Marion une fois, Marion deux fois, Marion trois fois. Marion revient dans quelques instants. Sarah Pitkowski.
Non.
Non, on ne s'en fout pas. Très bien. La Jumbo Visma perd donc Primoz Roglic. On vient de l'apprendre. Le Slovène ne prendra pas part à la 15e étape ce dimanche.
Mais il est forfait
pour le reste du Tour de France, victime d'une chute lors de la 5e étape. Celui qui figurait parmi les favoris pour la victoire finale jette donc l'éponge. Il était 21e au général et n'épaulera plus son partenaire et actuel maillot jaune, Jonas Vingegaard. C'est le premier abandon pour la formation du coureur danois. Et c'est un sacré abandon. Qui veut se lancer là-dedans? Simon Dutin.
Bah écoute, on avait le débat hier, c'est quand même une sacrée aide en moins. Il a eu l'honnêteté de se mettre au service de Vingegaard, alors que effectivement au départ du tour, on savait pas qui était le leader. Ils avaient annoncé que celui qui serait le mieux placé aurait le concours de l'autre à la Jumbo. Bon, c'est quand même quand t'as plus Roglic pour te faire le train et fatiguer un petit peu les adversaires. Je pense que c'est une... Enfin, quand t'as Roglic en Gregario dans une équipe, c'est quand même un luxe absolu. Donc, à contrario, une perte énorme pour Vingegaard. Et je pense un atout de plus pour les espoirs minces, certes, de Pogacar de renverser le tour.
Et
à titre personnel, pour le pauvre Roglic, qui est décidément maudit sur le tour, qui est un super mec. C'est toujours un peu triste. Et ça aurait été bien qu'il aille jusqu'à Paris pour sacrer son copain.
Ça sort de nulle part hier. Il était hyper en forme. Il a été hyper positif pour Vingegaard, qui lui-même l'a dit derrière en disant heureusement que j'ai revu.
Peut-être qu'on lui a mis un traitement. Peut-être qu'il s'est pris un traitement depuis sa chute. C'est sur les pavés, je crois.
Oui, exactement.
Peut-être qu'il est sous médicaments contre la douleur depuis et que là, ça devient tellement insupportable qu'il est obligé de jeter l'éponge.
En tout cas, c'est grâce à lui qu'il
avait l'impression recevoir un coup de couteau à chaque fois qu'il pédalait. Il peut pas se mettre en danseuse non plus. Après, c'est quand même un gars qui joue de malchance. C'est quand même incroyable, quoi. Donc, il se fait battre par Pogacar à la veille de l'arrivée à Paris en 2020 dans le contre-la-montre. Là, il tombe dans les pavés pour une botte de foin qui a été déplacée par un motard. Enfin, le gars, c'est incroyable, quoi.
On en a d'autres chez nous, des Français qui n'ont pas beaucoup de chance. Hein.
Qui prennent des sacs de ravitaillement dans la tronche, par exemple. Ouais, c'est vrai.
Ouais, Thibaut Pinot, c'est arrivé la semaine dernière. On parlera de Thibaut Pinot à partir de 11h30, affûtez vos arguments. Ah. Et on aura un reportage sur la Pinomania, même s'il n'est pas le coureur que l'on attendait, plus le coureur de 2019 qui peut jouer la gagne. En tout cas, il a une cote de popularité absolument incroyable.
Ça rebat quand même sacrément les cartes.
Il me semble aussi, ouais.
C'est que ce Tour de France-là, c'est-à-dire que alors qu'on pensait qu'il était totalement totalement acquis, totalement joué, ce retournement de situation.
Vous pensiez ça, dites donc.
Oh, non, ça non, va, on nous fait croire à chaque fois, quand le mec porte le maillot jaune, généralement, il l'a jusqu'au bout et on nous raconte des histoires, nous faisant croire qu'il pouvait se passer quelque chose. Ça, on nous l'a raconté pendant 15 ans.
Pour qu'on continue à regarder.
Parce qu'on nous perce d'illusions, Marion.
Mais oui, mais si on nous dit que c'est plié, dit 9 jours avant la fin, on va plus regarder, tu vois. Donc là,
franchement, ça donne envie de regarder. Cette dernière semaine, elle va être haletante.
Intégral Tour à partir de 13h pour la 15e étape, donc sans Primoz Roglic. Deuxième information dans le zapping de GG à développer peut-être avec vous. L'OM corrigé par Norwich 3-0 en match amical, match de préparation. On s'en fout, on s'en fout pas. Mario Bartoli.
Ben non, je m'en fous pas.
Marie Martineau.
Je m'en fous.
Sarah Pitkowski.
Non, alors je m'en fous, mais.
Ah yes.
Simon Dutin.
Je m'en fous pas.
Ok, c'est pour Simon.
Oh, Sarah.
C'est pour Marion.
Non. Ça m'intéresse pas.
Vous n'avez pas le droit de parler. C'est pour Marion, c'est pour Simon. Trois jours après avoir battu le club de Marignane, Hugo Tudor a connu sa première défaite sur le banc de l'Olympique de Marseille. Ça se passait à Fos-sur-Mer. Les Olympiens se sont logiquement inclinés face à Norwich. Je le disais, 3-0. Norwich relégué en Championship.
Il
sont donc en deuxième division, mais ils prennent 3-0. Ils gagnent 3-0 face à l'Olympique de Marseille. On va écouter Igor Tudor après cette première défaite et ensuite on va se délecter des mots de Marion Bartoli.
Je ne suis pas content car personne n'aime perdre, mais il était important de donner des minutes à tout le monde. Nous avons travaillé très dur ces deux dernières semaines, donc les jambes sont lourdes. Nous commençons à changer de système par rapport à la saison dernière et nous avons besoin de temps pour nous adapter. Non, il n'y a aucune raison d'être inquiet. Nous commençons à peine et c'est un travail très dur, mais qui nous sera bénéfique plus tard dans la saison.
Marion Bartoli sur la défaite de l'OM.
Ouais, benefit in the season, je vais te la raconter. Non, mais le truc, je le vois arriver gros comme une maison, ça commence à m'exaspérer. L'autre déjà, Tudor, comment tu peux avoir un nom pareil arriver à Marseille, Tudor, sans déconner. Je te jure, je le vois, mais arriver gros
c'est
comme une
dire,
maison.
Qu'est-ce que tu vois?
On va se prendre encore que des douilles en Champions League. On va essayer de sauver les meubles en championnat pour pas être totalement ridicule. Tous nos meilleurs éléments l'année dernière, quasi, ils sont repartis. Donc, Saliba est retourné à Arsenal, Harit, il est retourné à Schalke. On a fait des transferts à la mort moelleux et on prend l'entraîneur que personne connaît, sans déconner. Il va nous expliquer qu'il va mettre je sais pas combien de nouveaux systèmes en place et que ça va prendre 6 mois et qu'on sera 10e.
Donc on va
lui dire on est désolé, on a fait des bêtises. Non mais ça m'exaspère, je te jure. Ça m'énerve. Tu n'as pas idée que
tu fais pas semblant d'être supportrice marseillaise en tout cas. Tout dans la mesure. Il joue 3 jours après, donc il joue sous la cagnasse. 3 jours après un match contre Marignane. Tudor, il arrive avec l'étiquette d'un mec qui en fait baver aux entraînements. Ils ont une préparation effectivement qui a commencé beaucoup plus tard. Norwich, ils jouaient leur quatrième match de préparation. Ils en sont pas du tout au même stade de la préparation. L'OM est en chantier, a refait sa défense. Ils ont recruté 3 défenseurs centraux. Effectivement, ils ont perdu Saliba, faut le remplacer. Bon, un remplaçant de ce niveau, je sais pas, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Mais bon, ils ont recruté des mecs prometteurs. Il y a des choses à mettre en place. Et puis voilà, Norwich, ça descend de première ligue. Enfin,
mais il n'y avait rien du tout, Simon, à mettre en place. T'avais un système qui fonctionnait avec Sampaoli. Il demandait à faire des transferts. On lui a refusé. L'autre, c'est un sanguin. Du coup, il s'est barré. Qu'est-ce que t'as besoin de prendre un nouvel entraîneur, sans déconner?
Ok, alors.
Ça m'exaspère, je te jure.
Vous le savez, Marion Bartoli parle avec le cœur, notamment concernant l'Olympique de Marseille. Et c'est pour ça qu'on l'aime, Marion.
Et Harit, un des meilleurs joueurs de l'OM l'an dernier, bon...
Ok, c'est bon, je reprends la main. Vous parlerez de l'OM une prochaine fois. Moi, je suis en vacances tout à l'heure, donc la semaine prochaine, vous pourrez en profiter. On se retrouve dans quelques instants pour vous parler de l'athlé, les mondiaux, un sport devenu sans intérêt. On se pose la question, oui ou non, les GG depuis la retraite, vous le savez, du Shane Bolt. A tout de suite sur RMC.